Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, perles et diamants.
Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, et nous allons lire un simple et court verset dans ce chapitre. Et voilà ce que j'ai devant les yeux. Au verset 45, Matthieu chapitre 13, verset 45, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Voilà une des plus brèves paraboles que Jésus ait données dans son ministère. Et c'est une parabole à la signification inestimable, puisque nous allons parler de perles et de diamants. Un homme, nous raconte Jésus, est à la recherche de perles précieuses. Il est question d'un marchand qui fouille, cherche et va trouver. Et à travers le personnage qui est pris tout simplement en exemple, on y reconnaît le Christ cherchant de belles âmes, réceptive à son message. Très souvent, Jésus, d'ailleurs, dans l'Évangile, le dit d'une manière évidente, il dit « mais si quelqu'un entend ». Alors, nous allons nous mettre à l'écoute de cette parabole, de ce message et de sa signification. La perle de grand prix serait alors l'Église qui vaut à ses yeux le prix de sa vie. Cet homme va donc faire la découverte d'un trésor, cette perle, et il vend tout, nous dit tout simplement la parabole, et il va acheter le champ pour pouvoir s'approprier naturellement cette richesse. Et je crois que quand il s'agit tout simplement d'acheter, nous avons peut-être une transposition à faire dans le salut qui nous est donné à travers le message de Christ. Ce n'est pas seulement d'acheter, mais c'est surtout de nous racheter. Cette image donne toute la valeur à l'Église et souligne la joie immense que procure le salut des âmes, donc infiniment précieuse aux yeux de Dieu. Poursuivant la pensée, il est intéressant de réfléchir sur les différentes étapes qui conduisent à la perfection d'une perle ou d'un diamant ou d'une pierre précieuse. De toute apparence, lorsqu'on l'extrait du sol, eh bien, ce n'est qu'un vulgaire caillou, un maculé de glaise, de terre. Mais nous comprenons d'autant mieux lorsque nous tournons les pages de notre Bible et que nous allons fouiller un petit peu dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43, lorsque nous lisons ceci, où Dieu déclare « Je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » Voilà une parole qui est véritablement magnifique. Et nous allons découvrir finalement le long labeur qu'il y a dans les cœurs, le travail de Dieu dans les cœurs, mais également le long labeur qu'il peut y avoir pour un joaillier, tout simplement dans la préparation d'une pierre précieuse. D'abord, la recherche pour ce marchand, c'est un travail fastidieux parce qu'il va falloir se livrer à toutes sortes de travaux pour pouvoir trouver, fouiller au bon endroit. Donc il y a l'extraction. Ensuite viendra le temps du nettoyage, ensuite du clivage, c'est-à-dire la fraction de la pierre, l'écrutage pour lui donner la forme qui est voulue. Ensuite viendra le temps du polissage. Comparé à la dimension spirituelle, cela donne, comme Jésus finalement nous le dit dans un passage de l'Épître aux Éphésiens, comme Paul le dit, pardon, et nous avons finalement tout le travail de Dieu dans un cœur, dans les cœurs, et notamment par rapport à l'Église qu'il veut faire paraître sainte, sanctifiée et pure. Cette comparaison, nous l'avons dans Éphésiens chapitre 5 et au verset 25, quand il est dit ceci, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Voilà, nous allons maintenant avancer dans ces comparaisons. Et d'un côté, le travail qui est entrepris pour faire une pierre de grand prix, et puis également l'Église, dont nous avons lu un extrait de la façon dont Dieu veut eh bien, qu'elle soit, qu'elle devienne. La Bible met souvent en évidence, avec beaucoup de charme et de grâce, le prix que représentent aux yeux de Dieu les croyants rachetés. Et par exemple, dans le livre des Cantiques est un des plus beaux livres, livre poétique s'il en est un, hein, dans l'Écriture sainte, hein, eh bien, nous montre finalement tout ce qu'il peut y avoir eh bien, de préparation, de travail, de soins, d'amour pour eh bien, amener les choses à leur terme. De nombreuses fois, l'Écriture mentionne la valeur des œuvres de Dieu par l'utilisation ou la citation eh bien, de fabuleux trésors minéraux. Nous avons déjà, dès les premières pages de la Bible, dans le Jardin d'Éden, un environnement idyllique. Dans Genèse, le chapitre 2, verset 11, et puis les suivants, il nous est parlé de l'or d'Orphir, des pierres précieuses qui ont présidé à la création. Ensuite, lorsque nous allons un peu plus loin et que nous tournons quelques pages dans l'Ancien Testament, nous découvrons la splendeur du pectoral, du souverain sacrificateur qui démontre la haute dignité spirituelle de ce personnage puisqu'il est fait aussi de pierres précieuses. Cela est cité dans l'Exode au chapitre 28, à partir du verset 17, ce qui pourra être relu. Et puis nous voyons qu'un peu plus loin encore dans le livre de Job, eh bien, ce personnage, donc Job, nous convie à une visite dans les entrailles de la terre, il nous fait visiter une mine. Et c'est un des chapitres les plus curieux, les plus intéressants, parce qu'il nous montre qu'il y a des trésors cachés, insoupçonnés finalement aux hommes. Et puis plus tard, toujours en tournant les pages de l'Écriture, rien n'est trop beau pour la maison de Dieu, puisque nous voyons que dans le chapitre 29 de 1 Chronique, eh bien, il est parlé du sanctuaire divin, qui va être construit avec des matériaux, avec des pierres, avec toutes sortes de choses. Lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, la distinction est faite dans le service de Dieu. Si nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 12, eh bien, il est parlé de la construction aussi, de la noblesse des matériaux qui sont utilisés, des pierres précieuses, de l'argent, de l'or. Et puis, s'il y a négligence, eh bien, de tous ces matériaux secondaires, insignifiants. Cependant, nous pouvons dire que l'apothéose de la splendeur est donnée dans la contemplation de la Nouvelle Jérusalem. Et je crois que ça vaut le détour de lire simplement quelques versets dans Apocalypse, chapitre 21. Et au verset 19, il nous est dit ceci. « Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysophrase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. » Et nous voyons que c'est une formidable apothéose où nous voyons que les débuts de cette création de Dieu a commencé dans le livre de la Genèse par un monde minéral et se termine dans la Nouvelle Jérusalem par un monde aussi non moins minéral. Nous allons, si vous le voulez bien, eh bien parler de diamants. Une publicité très connue déclare « un diamant est éternel ». Voilà, c'est ce que nous voyons souvent proclamé. Et cette notion d'éternité est une des grandes vérités de notre méditation. L'évaluation d'un diamant s'apprécie en quatre critères. Il y a le poitail, il y a la couleur, il y a la pureté et il y a aussi la dureté. Le diamant est un carbone pur cristallisé, et les anciens l'appelaient invincible, et qui veut dire adamas, invincible. En joaillerie, le diamant produit un vif éclat, c'est un étincellement, en fonction de son indice de réfraction de la lumière. Pour mémoire, le plus gros diamant qui n'ait jamais été trouvé s'appelle le cullinan. Il est évalué à 3106 carats. Il a été découvert en Afrique du Sud en 1907. Alors nous pouvons nous imaginer ce que peut représenter pour celui qui est l'inventeur, donc celui qui a découvert la valeur et la richesse et la fortune. Il n'est pas surprenant que ces joyaux se retrouvent dans les trésors royaux, tels que le Sancy ou également le Régent. Certains, nous pouvons les voir au musée du Louvre à Paris. Et ils ont tous une histoire fabuleuse. L'histoire de la perle n'est pas moins extraordinaire. Le terme perle désigne dans son vocabulaire excellence. Excellence, et dans notre langage courant, eh bien, parfois nous employons ce terme, une perle, en parlant d'une personne, une personne bonne, une personne qui est en effet avec un caractère tout à fait particulier de bonté. Quelquefois, lorsque nous sortons certains mots, on dit que ce sont des perles aussi. Et puis, un ouvrage, hein, un artiste, un artisan, eh bien, aussi est capable de faire quelque chose d'extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, et on dira, eh bien, c'est une perle aussi. L'origine de la perle est étonnante, et nous allons faire une analogie spirituelle par rapport à cet exemple. Une perle est une concrétion calcaire nacrée, qui est composée d'environ 91% de carbonate de calcium, formée en couches concentriques à l'éclat irisé. Elle se développe au cœur même d'une huître. Et c'est ça justement la particularité, ce qui fait le côté très intéressant pour peut-être donner quelques comparaisons spirituelles. Alors cette huître, on l'appelle naturellement l'huître perlière, en réaction à la présence d'un grain de sable ou d'un parasite qui s'est introduit dans l'huître. Et ce qui se passe est non moins formidable, parce que nous allons voir d'ici quelques instants, mais je voudrais simplement souligner que la plus grosse perle au monde s'appelle la perle d'Allah. Elle pèse, et naturellement, il ne faut pas l'avoir autour du cou, parce que ça fait quand même un certain poids, et je crois qu'elle pourrait certainement attirer les regards pour la convoitise de certains. C'est une perle, donc la plus grosse, qui n'ait jamais été finalement présentée. Elle pèse 6 kg 370. Elle a été trouvée aux Philippines en 1934. Dans le langage perlier, on parle de lustre. Le lustre d'une perle, c'est son éclat lumineux. Et on parle également de poids ou de grain. On parle également d'orient. L'orient d'une perle, c'est son aspect irisé. On parle de sa couleur, naturellement, de sa forme, de sa pureté. Et on sait que tout l'intérêt que, naturellement, les hommes ont découvert et développé à travers des cultures de perles, des cultures d'huîtres perlières. Ceci dit, nous allons revenir au phénomène naturel de la formation d'une perle. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 17 et au verset 1er, voilà ce que nous lisons, parce que nous allons souligner quelque chose, tout en restant dans la pensée de la perle qui va recevoir un parasite, et ce parasite va être transformé, nous allons le voir d'ici quelques instants. Je disais donc, dans Jérémie, chapitre 17, verset 1er, il nous est dit « Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. » Ce que nous remarquons, c'est que Jérémie, inspiré par Dieu, parle d'une pointe de diamant qui est gravée sur la table du cœur des hommes, et nous avons donc la signification à cela sur le plan, si nous voulons le reporter sur le plan spirituel. Un grain de sable, un parasite. Dans l'histoire des hommes, aussi dur qu'une pointe de diamant qui est écrite, qui est gravée au fond du cœur de chaque homme, parce que c'est un parasite d'une grande dureté, c'est un corps étranger, la Bible appelle tout simplement le péché. Le péché, voilà le nom qui lui est donné. L'huître, au lieu de se laisser détruire par le parasite, va l'absorber, va l'intégrer par un processus de sécrétion, c'est-à-dire rendre finalement le défaut autrement. Rendre ce défaut, eh bien, autrement, le changer de nature et faire de l'intrus parasite qui est mauvais, qui est laid, eh bien le transformer en splendide perle éclatante et de grand prix. Voilà le miracle de l'huître perlière. La nature est là pour nous enseigner, comme Jésus a si souvent tiré des leçons tout simplement de la nature et les mettre en parabole. Voilà le miracle qui se produit. Au lieu de se laisser détruire, eh bien, elle va transformer les choses. Elle va changer la nature des choses. Naturellement, cela ne signifie pas que Dieu rend le péché agréable et beau. Je n'ai pas dit cela, et ce n'est pas cela ce qu'il faut comprendre. Cela veut dire simplement que Dieu a neutralisé l'effet pervers du péché, qu'il en a évacué sa substance destructive, qu'il l'a absorbée par l'expiation de la croix. Et voilà, nous arrivons maintenant dans une signification hautement spirituelle, c'est que les choses ont été réglées à travers le sacrifice de Jésus, ce sacrifice rédempteur, à travers le don de sa vie. Et qu'est-ce que Dieu pouvait faire des hommes? Qu'est-ce qu'il pouvait faire des hommes avec un cœur dur, avec un cœur rempli de péché, sinon transformer les choses? Changer le mal en bien. C'est exactement ce que fait l'huître. Et ce qui a donné, eh bien, ces trésors fabuleux, ces perles, ces choses extraordinaires. D'un mal à l'origine, Dieu en a détourné, en d'autres termes, il en a changé le cours. D'âmes mauvaises, perdues, corrompues, il en a fait des âmes rachetées, il en a fait des âmes sauvées, des âmes purifiées, en d'autres termes, des perles de grand prix. Voilà le miracle de Dieu. Et c'est vrai que nous ne pouvons que nous émerveiller devant ces choses et cette citation qui nous est donnée dans l'Écriture sainte, quand Jésus dira « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, nous voyons qu'il y a là naturellement eh bien, une comparaison évidente dans notre propos ce matin, entre ce qui se passe dans la nature et puis ce qui se passe aussi dans la dimension spirituelle. Ce qui était sans valeur, ce qui était méprisable, rejeté, Dieu l'a rendu précieux et estimable. Son amour nous a enveloppés pour nous, en quelque sorte, nous habiller, nous parer et nous communiquer l'éclat de sa lumière. Puisqu'il le dira lui-même à ses disciples, les envoyant dans le monde entier pour apporter ce témoignage, il dira « Mais vous êtes la lumière du monde. » Et de ce qui était ténèbre, eh bien, il l'a changé en lumière. Ce qui fait que, finalement, eh bien, l'Église devient par elle-même eh bien, ambassadrice de cette lumière qui est céleste pour la faire resplendir sur la terre. D'ailleurs, l'Écriture le dit bien et le rappelle, il nous est bien mentionné qu'il viendra, en parlant de Jésus dans son second retour, il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Voilà la grande révélation qui nous sera donnée dans les derniers temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle le miracle de la régénération. Un grain de sable qui devient perle. Par tout un processus qu'il ne faudrait pas s'imaginer immédiat, miraculeux. Le miracle se fait dans le temps, se fait dans toute une vie d'homme. Comme dans la perle, eh bien ça se fait au cœur même de l'huître, qui garde finalement cet intrus, mais qui au bout d'un certain temps ressortira eh bien, une véritable perle. Quant au diamant, il est intéressant aussi de voir le processus, le processus qui lui donne son éclat final, un diamant. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une véritable convoitise. Alors, et cela force notre admiration, autant que finalement, eh bien, la perle dont parlait il y a un instant, cela force notre admiration si l'on considère l'ouvrage de Dieu sur et dans une vie, en effet, une vie perdue. C'est cela, comment Dieu peut-il prendre un homme et de cet homme, eh bien, en faire un homme transformé, changé, préparé déjà pour le ciel. Tout le travail du joaillier consiste à faire sortir, en d'autres termes, on changera de verbe, de restituer la lumière des ténèbres. C'est ça le travail qui se fait dans un diamant, qui se fait dans cet élément, la lumière des ténèbres. D'un simple et insignifiant caillou, en faire un joyau. Le prophète Ésaïe, au chapitre 51, nous dit ceci, « Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. » Et je crois que tout chrétien le sait pertinemment, c'est qu'avant d'être ce que nous sommes, ce que Dieu demande et attend de chacun d'entre nous, il y a un travail qui se fait tout au long de notre existence, mais nous n'avons jamais besoin, nous avons toujours besoin de nous souvenir d'où nous avons été tirés. De notre condition de misère, de nos souffrances, de notre état premier, finalement. Quand il s'agit de cette pierre précieuse, il est question d'abord de l'extraction, sortie de l'enfouissement et de l'oubli, c'est-à-dire de l'état brut à l'état fini. C'est cela. Moi, je ne recherche pas de trésor ni de diamant, Je serais bien incapable de, si je voyais une pierre parmi tant d'autres, dans une fosse, de dire eh bien, qu'il y a un trésor entre mes mains, même si je le détiens. Hein, il faut qu'il y ait tout un travail très long. Et c'est ça, justement. Retirer de l'enfouissement pour nous amener finalement à l'état fini. Le long travail de l'artiste divin commence. Il y a la phase, en parlant des choses spirituelles, la phase de conversion et de sanctification. Conversion d'abord, puis tout au long de notre vie, tout un cheminement d'épuration, de travail qui se fait par le Saint-Esprit autant qu'on lui laisse le droit d'intervenir dans notre vie. Il y a cette mise à jour pour aller vers la lumière. Quand celui qui l'a trouvé va procéder déjà dans cette première phase, ensuite, une fois qu'il sera nettoyé, une fois qu'il sera épuré, qu'il sera dégagé de sa gangue de boue ou de glaise, alors il va le marquer. C'est ce qu'on appelle le marquage. On le fait communément chez les professionnels avec de l'encre de Chine. Et là, on va tracer un schéma de destination. On va lui donner un plan de forme avec des perspectives et des attributions de ce que nous voulons finalement que devienne cette pierre. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il vient nous chercher ici-bas et il nous donne une destination, il va nous marquer pour l'éternité. Il y a ensuite une troisième étape qu'on appelle le clivage. Cette pierre, elle ne peut pas être commercialisée, elle ne peut pas être travaillée de cette manière, il faut qu'elle passe par cette étape du clivage où on va la scier, où on va la fendre. C'est-à-dire qu'on va séparer les éléments purs et impurs. Parce que même au cœur de la pierre, il peut y avoir aussi des éléments impurs, des imperfections. C'est ce que Dieu fait entre la chair et l'esprit chez les hommes. Ensuite viendra cette autre étape qu'on appelle l'ébrutage, qui se fait sur frottement d'un autre diamant pour le rendre encore beaucoup plus, lui donner encore beaucoup plus de valeur. L'ébrutage, ça c'est la communion fraternelle. Et c'est en se frottant les uns les autres, c'est en étant en communion avec les uns les autres, avec différents caractères, différentes façons peut-être de vivre ou de penser. La communion fraternelle, eh bien, c'est une forme d'ébrutage. Ensuite viendra une autre étape qu'on appelle le polissage, par contact avec, pour atteindre l'optimum de beauté, et cette beauté qui sera cette beauté définitive. Je crois que tout le travail finalement de l'œuvre de Dieu se fait, et elle nous est présentée à travers finalement ces gens qui ont cette capacité, cette habileté, ce professionnalisme pour faire d'une simple pierre un véritable trésor. Mais tout cela se fait avec des épreuves. L'épreuve, on le voit à travers le temps. Mais l'épreuve et le temps produisent quelque chose de formidable. Quand ça arrive à maturité, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, que nous connaissons tous, puisqu'ils sont évoqués dans le livre de Paul, dans l'épître de Paul aux Galates, le fruit de l'esprit. Deux mots et une citation sur la taille du diamant. On appelle un diamant qui a été travaillé, on appelle ça un brillant. Un brillant comporte 56 à 58 facettes, en général. Il y en a d'autres, naturellement, mais dans les cas les plus fréquents, communs, 56 à 58 facettes. Un diamant est unique grâce à sa diversité, grâce à son éclat. Alors il est appelé à ce moment-là le feu. On parle du feu du diamant. C'est tout le résultat d'un travail, d'un long travail, naturellement. Et ce feu du diamant, c'est son unité dans la variété. Et Pierre nous en parle lorsque nous tournons les pages, encore une fois, de notre Bible. Alors, il nous en parle et il nous dit dans sa première épître, au chapitre 2, au verset 4, il dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante ». Donc, nous avons toujours les mêmes références, les comparaisons qui sont données encore, quel que soit le livre de la Bible. Alors, il nous est dit « Mais approchez-vous de lui, approchez-vous de Dieu, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme dit pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Car il est dit dans l'Écriture, et vous pourrez naturellement à loisir lire la suite. Splendeur et reflet du diamant, du brillant. C'est l'Église. C'est le but que Dieu s'est assigné naturellement, sous toutes ses facettes. Et quand on regarde l'Église, certains la décrit parce qu'elle n'est pas parfaite, c'est vrai, parce qu'il y a des imperfections, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui s'y passent, ça c'est certain. Mais l'Église est perfectible. Mais elle est entre les mains de, du divin joaillier, de l'artiste, nous pourrions dire, de l'artiste divin. Et quand on la regarde sous une façon, sous une autre, hein, alors on découvre qu'il y a vraiment des merveilles. Il y a la sagesse infiniment variée de Dieu qui se dégage à travers, eh bien, tantôt un don, tantôt une attitude, tantôt des capacités qui sont données, et cela, quand c'est repris en sous-main par le Saint-Esprit, ça devient surnaturel et miraculeux. Donc, le jugement de l'Église doit être assez modéré, parce que nous ne connaissons pas tout, mais nous avons et nous sommes invités à découvrir et à découvrir Christ à travers l'Église, quoi qu'il en soit. Enfin, un diamant est aussi un symbole de pureté, mais aussi de durée. Nous avons dit tout à l'heure que, selon le slogan publicitaire ou commercial, un diamant est éternel. Donc, symbole de pureté et de durée. La première, donc, la pureté, c'est la perfection de réflexion de la lumière ou de réfraction, comme l'on veut, pour que nous soyons des prismes purifiés qui laissent voir l'image de celui qui est la lumière, la vraie lumière. Nous ne sommes que nous, tout simplement, eh bien, en quelque sorte des miroirs pour refléter cette lumière. Nous ne sommes pas la lumière nous-mêmes, mais nous devons être les porteurs de cette lumière véritable, parce que c'est une lumière qui se caractérise par une chose, hein, bien connue, c'est une lumière sans ombre, et la lumière qui est en Christ est une lumière parfaite. La seconde, c'est la durée, parce qu'une vie de façonnage n'est rien en comparaison de la dimension où le temps ne se mesure plus et que nous sommes faits pour l'éternité. C'est ça justement ce qui est extraordinaire, c'est que notre destination, eh bien, que ce soit une perle, que ce soit un diamant ou une pierre précieuse, eh bien, c'est fait pour durer. Il n'y a pas de dissolution, mais c'est fait pour l'éternité. Je termine simplement par une belle citation qui est extraite du livre de Daniel, le prophète Daniel, qui a su écrire des choses extraordinaires justement dans la perspective de l'éternité. Et au chapitre 12 et au verset 3, il est dit ceci: ceux qui auront été intelligents, nous retenons bien ce qui suit, brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est une citation extraordinaire, parce que finalement, eh bien, c'est une formidable conclusion que nous pouvons donner à cette recherche, à cette prospection, nous pourrions dire, à cette découverte. La perle de grand prix, nous dit Jésus. La perle de grand prix, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. L'apôtre Paul va donner le dernier mot de ce message d'une manière admirable, me semble-t-il. Il dira ceci: nous tous, dont le visage découvert à travers l'éclat du salut que Dieu nous a donné, reflète la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés comme les perles et les diamants, c'est moi qui l'ajoute naturellement, je paraphrase, et nous sommes transformés, perles et diamants, en la même image, celle de la lumière, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur, celui que nous pouvons véritablement adorer, parce qu'il est le divin joaillier, il est notre Créateur, il est aussi notre Sauveur. Alors que Dieu nous bénisse, et nous allons tout simplement prier maintenant. Merci.